Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Comme chaque semaine, ils sont avec nous, les vadrouilleurs Geneviève Lajoie, Nicolas Lachance et leur patron, Rémi Nadeau. Bonjour, le chef. Ça va bien?
Très bien.
Bonjour.
On revient, ça va un peu moins bien entre les villes et le gouvernement du Québec. C'est le retour de la zizanie. On avait eu la zizanie autour de la question de l'itinérance. Là, c'est le transport en commun, évidemment. Il y a Bruno Marchand qui a dit qu'il avait vraiment plus confiance en Geneviève Guilbeault. Je me posais la question, et aussi c'est vrai, il y a François Legault qui a dit que c'était une gang de quêteux. Et je me posais la question, est-ce que ça prouve pas que moins François Legault parle, mieux ça va, Nicolas?
Ben, du moins, les sondages semblent le démontrer également. Ça faisait 3 semaines qu'il ne nous avait pas parlé. Il semblait avoir stoppé la chute vertigineuse de la CAQ dans les sondages. Et soudainement, et ça lui brûlait les lèvres tout au long du point de presse. On sentait que ça le titillait, il avait envie de dire des choses. Puis à la dernière seconde, il s'est laissé aller. Il a dit le fond de sa pensée et en même temps... On critique souvent les politiciens d'avoir la langue de bois. Il l'a eu avec Lefebvre, par exemple. Quand il s'est fait poser la question sur le départ d'Éric Lefebvre, il a répété la même cassette constamment, même si on sent qu'il a envie de dire quelques trucs sur ce départ-là qui lui fait mal. Mais il l'a dit, puis du même de l'autre côté avec Bruno Marchand, il a dit le fond de sa pensée. Souvent, on dit que les politiciens osent pas dire tout haut ce qu'ils disent tout bas en privé. Ben moi, je pense que c'est pour le bien de la population de les entendre dire ce qu'ils pensent.
Geneviève, sur cette querelle des transports et sur le François Legault qui vient de briser le silence.
Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, tu sais, les maires là, ont pas intérêt à se coltailler avec le gouvernement sur la place publique. Puis on l'a vu au début du gouvernement, c'était beaucoup moins le cas. Mais c'est sûr que le gouvernement, c'est lui qui possède le trésor de guerre, hein, l'argent des contribuables québécois. Donc là, c'est sûr que plus les sondages sont négatifs pour François Legault, plus les maires sont tentés publiquement de dire leur façon de penser au gouvernement, parce que ça fait même en sorte, il peut même y avoir avantage à faire ça, puisqu'ils ont l'air proches ou près de leurs citoyens qui, eux, font de moins en moins confiance à François Legault.
Mais on parle pas beaucoup du fond de l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a des déficits épouvantables dans les sociétés de transport, hein, Rémi? Et c'est ça, au fond, la pomme de discorde.
Oui, et tu sais, là-dessus, moi, je trouve que Geneviève Guilbeault a partiellement raison, mais elle a été malhabile là, en disant que c'était pas une mission de l'État, ça avait trop l'air... Elle a pas utilisé les bons mots, elle n'a pas été habile là, sur le plan des communications, alors que c'est censé être sa force, donc c'est un problème pour elle. Mais sur le fond, c'est sûr qu'elle a raison de dire qu'à un moment donné, le gouvernement, lui, n'est pas responsable de la gestion au quotidien des activités des sociétés de transport. Et les sociétés de transport font des choix, et des fois, c'est des choix coûteux. François Legault répète souvent que les employés municipaux sont payés plus cher que ceux du gouvernement du Québec, que ceux du gouvernement du Canada. Ils ont aussi d'autres dépenses. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, le gouvernement, pendant la pandémie, a pris ses responsabilités pour dire, ben là, c'est normal, il n'y avait plus personne. Il fallait qui utilisait le service. Donc, il fallait absolument aider les sociétés à éponger leurs déficits. Mais par contre, là, est-ce que c'est au gouvernement, année après année, d'éponger? Ou à ce moment-là, c'est ce que devrait faire le gouvernement, c'est trouver une nouvelle façon... soit d'organiser avec les villes le transport en commun et rendre ça plus facilitant. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un coup de barre quelque part et il y a de responsabilité des deux. Tu sais, je pense que ce n'est pas uniquement au gouvernement de dire « je vais payer les yeux fermés tout ce que font les sociétés de transport », mais en même temps, il faut aussi qu'il soit un leader, le gouvernement. Il ne peut pas tout simplement se laver les mains et dire « je ne m'occupe pas de ça, le transport en commun ». C'est pas important.
Oui. Mais il y a la proposition du Parti québécois d'aller piger dans le fonds d'électrification, l'ancien fonds vert qui est créé là, par les revenus de la bourse du carbone. Nicolas, est-ce que c'est réaliste, ça, d'aller piger là-dedans?
Bien, du moins, il y a de l'argent qui dort. Il y a un surplus de 1,7 milliard de dollars. Hier, la commissaire au développement durable parlait que c'est plutôt 1 milliard maintenant, là, qu'il y aurait eu des dépenses qui n'ont pas encore été mises sur la table, mais qui auraient été faites dans le fonds. Donc, on a 1 milliard qui dort là. Puis ben, c'est idéologique, rendu là. C'est une question politique. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Ça reste que les villes, elles, attendent un plan. Ils ont gagné des campagnes électorales en proposant certaines choses. Et forcé d'admettre que depuis 6 ans, à la CAQ, on voit pas beaucoup de résultats concrets, non, de visu sur le transport collectif. Donc, j'ai l'impression qu'il est un peu, on se base beaucoup sur l'aspect financier. Et oui, c'est le gouvernement du Québec qui tient les cordons de la bourse. Mais on attend aussi une vision concrète pour que tout le monde avance dans le même sens. Et je pense que c'est là qu'il y a la friction est en train de se créer. Puis, ben, clairement, est en train de se dire aussi sur la place publique. Donc, et ça revient un peu à ce qu'on disait en début de mandat. C'est clairement, les municipalités prennent l'espace des oppositions qui peinent à voir le jour et à prendre l'espace public. Et clairement, c'est eux autres qui mènent le bal et qui sont capables de faire réagir le gouvernement présentement.
Dossier d'Éric Lefebvre maintenant, ce whip qui a finalement déserté la CAQ. Justement, Geneviève, tu l'as appelé étiqueté déserteur plutôt que transfuge. On a eu une petite discussion au bureau avant-hier là-dessus. J'aimerais que tu me parles de ce choix-là de mots.
Bien, il faut savoir que nous autres, on travaille avec des mots à journée longue. Hein? Alors, on se trouve des synonymes, on cherche des synonymes. On peut pas utiliser le mot transfuge dans le cas d'Éric Lefebvre puisqu'il n'est pas passé directement à l'ennemi. Ce qui aurait été le cas s'il avait traversé la Chambre pour aller au PQ, au PLQ, à Québec solidaire, ce qui m'aurait grandement surpris, là, évidemment. Et puis je vous rappelle que là, il est passé au Parti conservateur du Canada. Hein. François Legault a déjà dit que c'était une bonne chose de voter pour les conservateurs fédéraux. Donc dans ce cas-là, on peut pas parler donc de transfuge. Déserteur, ben on a l'image du soldat qui déserte. Et quand déserte-t-il? Évidemment, quand ça va mal. donc, c'est pour ça que je l'ai appelé le déserteur. Mais sur le fond des choses, ce qu'on a appris cette semaine, et ce qui nous a pas dit mot pour mot, mais ce qu'on a compris du discours d'Éric Lefebvre, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas indépendant de fortune et que finalement, il a besoin de son salaire de député de l'Assemblée nationale, à tout le moins jusqu'aux élections fédérales, aux prochaines élections fédérales. Alors, c'est ça qu'on a compris de ce qu'il nous a dit cette semaine, c'est qu'il a besoin de ce salaire-là et qu'il va rester donc député indépendant le plus longtemps possible, donc jusque probablement à l'élection, au déclenchement de l'élection fédérale.
Ces explications étaient un peu laborieuses. Rémi, est-ce qu'elles t'ont convaincu?
Non, c'est sûr que c'est comme Geneviève a mentionné, c'est tout simplement une question de salaire là, pour lui, parce que à partir du moment où on sait qu'il va être une figure importante au Québec de Pierre Poilievre, c'est un organisateur super efficace. D'ailleurs, quand il avait été candidat dans le passé pour le Parti conservateur au fédéral, Stephen Harper avait été vraiment impressionné là, par le nombre de cartes qu'il avait vendues et ce qu'il avait organisé, tout ça. Bon, alors c'est sûr qu'à partir du moment où il sait, Éric Lefebvre, qu'il va être candidat à l'élection fédérale, il va commencer à préparer le terrain. Et là, est-ce qu'on peut prétendre qu'il est 100% dédié à son travail de député au provincial? Je pense que la réponse, évidemment, c'est non. Il peut, la tête et le cœur peuvent pas être aux deux en même temps à 100%, c'est impossible. Et pour la CAQ, là, ce qui fait mal, c'est que c'est quelqu'un qui avait une position quand même relativement enviable, là, dans le sens que le grand public connaît pas beaucoup Éric Lefebvre, mais être whip du gouvernement, c'est être responsable d'un cabinet d'une vingtaine de personnes, c'est quand même une assez grosse équipe. Il siège au Conseil des ministres.
Ils n'ont pas l'air contents à son cabinet. J'en ai croisé dans le couloir qui était pas content de leur ancien patron.
Ben, ils ont trouvé évidemment que ça s'est fait tellement vite, je veux dire, dans le mandat. Il reste encore beaucoup de temps au mandat et le perdre comme ça du jour au lendemain. Et donc, il y en a des députés à la CAQ là, qui n'ont pas de poste au Conseil des ministres et qui auraient bien voulu avoir ce travail-là. Donc, que lui, il renonce, ben, ça montre, comme Geneviève a dit, que c'est parce que les sondages sont pas bons, ça va pas bien. Bien que lui, ce qui est drôle, c'est que dans son cas, lui, selon Québec 125, il faisait partie des 11 qui...
Rescapés!
Qui gagnerait, oui, c'est ça, en 2026, malgré tout. Mais tu sais, quand même, ça montre que il y en a d'autres qui réfléchissent. Et tu sais, on répète souvent que Pierre Fitzgibbon pourrait quitter avant la fin du mandat, Christian Dubé, Éric Girard, et il y en a d'autres aussi qui se demandent, bon, est-ce que je vais vraiment solliciter un nouveau mandat? Donc, tout ça, ça envoie comme un signal qu'à la CAQ, ça commence un peu à s'effriter là, dans l'esprit de corps, puis dans
Il pourrait y avoir plusieurs déserteurs.
Oui, exactement.
Plusieurs déserteurs, hein, Nicolas. Donc, juste rapidement sur Éric Lefebvre.
Bien, on a la chance parfois d'assister à des mêlées de presse intéressantes lorsqu'on est journaliste à l'Assemblée nationale. Et je dois dire que j'étais présent lors de cette mêlée de presse avec Éric Lefebvre.
Oui.
Qui s'en allait sur une belle dérape à la fin. Là. Il avait hâte que son attaché de presse qui travaille à son bureau de comté, il lui donnait des tapes sur la cuisse pour que ça arrête. Parce qu'on était sur le point de lui faire dire que il voulait rester à la CAQ, mais non, ça a pas passé du tout au cabinet du premier ministre.
Exact.
Il devait partir, donc il a répété ce qu'on lui a dit de dire. Hein. La meilleure chose, c'était que je quitte. Mais il voulait rester à la CAQ. Mais imaginez ça, c'était impensable. Et en coulisses, on nous dit qu'il était encore amer de ne pas avoir eu un vrai poste de ministre. C'est sans doute ce qui ressort principalement, c'est qu'il voulait siéger et avoir un portefeuille. Il était tanné du rôle de whip. Il voulait plus. Et c'est ce que les conservateurs, semblent vouloir lui offrir.
Geneviève, parlons de ta une de ce matin. On est vendredi, au moment où on enregistre. Une députée s'est confiée à toi sur son vraiment difficile parcours vers la fécondité. Donc,
oui.
Histoire humaine intéressante là, ce matin.
Oui, c'est la députée caquiste de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassin, députée de la CAQ. Donc, qui, effectivement, après 3 ans, c'est une jeune femme de 33 ans, là, qui est quand même, si je ne m'abuse, la plus jeune députée femme à l'Assemblée nationale. Et ça fait 3 ans, qu'elle tente de tomber enceinte. Elle tenait à raconter son histoire parce qu'il y a énormément de femmes qui vivent ça et c'est très... C'est méconnu là à quel point ça peut être difficile, des injections dans le ventre tous les jours, la nausée constante pendant des mois. Je veux dire, tu travailles là, tu dois travailler, tu dois livrer tous les jours.
Mais oui.
Et c'est difficile, mais c'est même difficile aussi financièrement parce que le cas de madame Bourassa. En fait, c'est pas couvert par le régime, le programme de procréation publique.
Ben oui, je pensais, moi, qu'il y avait comme un essai gratuit, comme on dit.
Oui, un cycle de fécondation in vitro qui est offert gratuitement aux couples infertiles. Le problème, c'est qu'elle, son conjoint, quand elle l'a rencontré, lui est plus âgé et lui avait déjà été vasectomisé.
Oh, alors, le canal famille était coupé.
Exactement. Mmh. Donc, dans ce cas-là, le gouvernement ne rembourse pas les traitements, mais à la fois pour l'homme et pour la femme aussi. Donc, ils ont déjà dépensé 40 000 $ là, pour des traitements. Évidemment, elle est députée, lui est militaire. Je veux dire, ils font quand même de bons salaires, mais c'est sûr qu'elle, dans son parcours, a croisé évidemment beaucoup de femmes qui, elles, n'avaient pas les moyens de s'essayer 2 ou 3 fois. Comme elle aurait réussi à le faire. Mais là, bonne nouvelle, elle est enceinte. Son accouchement est prévu au mois de novembre. Mais un beau témoignage là, aujourd'hui là, de la députée Karianne Bourassa.
Il nous reste 3 minutes. J'aimerais entendre Rémi sur ses pouces en haut et ses pouces en bas là, de la fin de semaine. On sait que Rémi, il nous fait toute une page dans le journal tous les samedis là, sur... les bons et les moins bons coups de la semaine.
J'ai pas trouvé vraiment de bons coups cette semaine. Écoute, Geneviève Guilbeault, en raison de la bourde sur le plan des communications, évidemment, c'est un mauvais moment pour elle. Pour ce qui est de François Legault, bon, on comprend là, qu'il veut être plus discret. On en parlait en début de segment. Ça semble lui amener un certain avantage, mais à un moment donné, il y a une limite. Là. Non seulement il répond très peu aux questions des journalistes là, au Parlement, pratiquement plus, ouais. Là, en fait, là, depuis quelques semaines. Mais en plus, là, sa manie de répondre à Paul Saint-Pierre Plamondon en citant ses extraits de livres de 2014, là, à un moment donné, ça devient ridicule. Et le comble, en fait, je trouve, c'est de faire une activité symbolique pour le jour de la Terre, c'est-à-dire planter un arbre et que ce soit fermé aux médias. Donc, c'est faire une activité symbolique, médiatique, pas de médias. Parce que c'est un peu le comble du ridicule.
Sinon, oui, Geneviève, là-dessus, peut-être?
Ben, j'allais dire, si Rémi n'a pas de pouce en haut, justement, mais moi, j'en aurais un cette semaine. Je lève mon chapeau à Pierre Fitzgibbon, parce que là, on parle des politiciens qui mettent leur cape d'invisibilité dans les corridors du Parlement. Ouais. Là. Mais en tout cas, s'il y en a un, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Pierre Fitzgibbon, hein, il ne laisse personne indifférent, mais il faut lui donner ça. C'est le seul ministre qui s'arrête automatiquement devant les journalistes, répond à toutes les questions. Oui. En as-tu une autre? En as-tu une autre? Je vais répondre. Malgré son attaché de presse qui, souvent, tente de le tirer, mais ça fonctionne jamais. Il veut répondre aux questions et donc c'est un des seuls politiciens qui n'est finalement jamais encore, en tout cas pour le moment, devenu un politicien et un adepte de la langue de bois.
Il a du plaisir à le faire. Il y a vraiment plaisir.
Puis, il nous a révélé cette semaine que le bureau du Québec en Israël, c'était son idée.
Oui, un de ses nombreux voyages. Il est allé en 2022 pour un voyage pour, en tout cas, la recherche et l'innovation. Et puis là, c'est à ce moment-là qu'il a lu l'éclair de génie d'ouvrir un bureau du Québec à Tel Aviv. Bon, ça avait déjà été dans les cartons du gouvernement déjà en 2017 là, sous les libéraux. Mais visiblement, c'est lui qui a poussé pour ça au sein du gouvernement de François Legault.
C'est lui la vision du transport collectif également.
Ben, c'est vrai, hein, il nous dit qu'il y a
trop de voitures. C'est le seul qui ose dire ça à la CAQ.
Exactement, il faudrait juste qu'il investisse davantage peut-être dans les grands projets. C'est sûr que là, avec les déficits, ça pose de sérieux problèmes. Peut-être un dernier mot là, en terminant, Nicolas.
Je comprends sur M. Legault qui nous parle pas. Je trouve qu'il devrait peut-être un peu plus doser. Venir nous parler, il est pas obligé de faire une déclaration choc à chaque fois. Peut-être être capable de garder un peu de contrôle sur lui-même. Et comme ça, tout le monde serait content.
Hey, on n'avait pas beaucoup de temps cette semaine, cher Vadrouilleur. Merci beaucoup de votre discipline. Alors, Geneviève Lajoie, Nicolas Lachance, correspondant parlementaire au bureau parlementaire, et leur chef, Rémi Nadeau. Merci beaucoup.
Merci. Salut.
Au revoir.